Après un culte, Marie-Christine est venue me voir pour me dire qu'elle avait une très mauvaise nouvelle pour moi. Il y a quelques dimanches. Alors je l'écoute. Et voici ce qu'elle me dit. Manu, je suis navré pour toi. Mais tu ne pourras pas manger du poulet au ciel. Nous serons végétariens. Je reconnais que j'ai été triste. Mais peut-être qu'il y aura pas mal de surprises aussi. Hein. En tout cas, on sait que les liens avec les animaux sera différent. Puisqu'il n'y aura pas de violence. Que ferons-nous au paradis? Bonne question. C'est une très très bonne question. Et la Bible invite les croyants à s'en réjouir et à s'y préparer. Donc nous devons pouvoir répondre à cette question. C'est vraiment important. Je sais en entendant certains et aussi en ayant lu des livres sur le sujet que plusieurs ont peur de s'ennuyer au ciel. Je vous rassure, nous ne serons pas tous les jours chacun sur un beau nuage blanc à jouer à longueur de journée de la harpe et à chanter. Alors peut-être Fanny sera contente de ça puisqu'elle est harpiste et doit avoir de super harpes au ciel. Dans le paradis, il y aura beaucoup d'activités. Mais la Bible ne dit pas tout. C'est comme si Dieu nous réservait des surprises. Et je crois que Dieu est un Dieu de cadeaux, qui aime bien faire des surprises. Alors, que ferons-nous au ciel? Je vais maintenant donner plusieurs réponses qui sont parfois claires dans les textes bibliques et parfois moins claires. Et donc, je vais donner une interprétation, et ce n'est pas forcément tout le monde qui sera d'accord sur ces interprétations, mais voilà, on est là, on tâtonne. Hein, on est face à pas mal de textes, mais on veut y aller maintenant et prendre le temps de voir, mais qu'est-ce que Dieu nous réserve? Mais avant cela, je vais prier. Dieu notre Père, nous avons besoin de toi. Besoin que tu nous éclaires au travers de ta parole. Comprendre ce que tu réserves pour nous. Seigneur, que tu me soutiennes et que dans ce que nous allons entendre, cela nous réjouisse et nous donne encore plus envie de voir Jésus-Christ revenir pour vivre cela et vivre auprès de toi pour l'éternité. Merci Père de nous toucher au travers de ta parole et que ta parole ait un impact dans notre vie quotidienne à tous. Au nom de Jésus, amen. La première chose que je vais vous dire, c'est nous vivrons sur une nouvelle terre. Alors ça fait bizarre parce que ça dit que ferons-nous au ciel? Nous vivrons sur une nouvelle terre. C'est un non-sens, hein? Et en fait, la bonne question, la meilleure question serait plutôt « Que ferons-nous sur la nouvelle terre ?» La Bible mentionne à plusieurs reprises qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. En voici un. 2 Pierre chapitre 3, verset 13. « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et j'aimerais vous en donner plusieurs, puisque même dans l'Ancien Testament, on a Ésaïe qui le dit, et nous l'avons dans l'Apocalypse. Donc, c'est très clair. Il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Souvent, nous disons que nous vivrons au ciel. Il est vrai qu'avant le retour de Jésus-Christ, les chrétiens qui meurent iront au ciel. Mais ce n'est pas le lieu qu'ils vont occuper pendant toute l'éternité, les amis. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 21 et 22, ces passages ne parlent pas de nous comme allant au ciel ou ailleurs, mais plutôt de Dieu descendant sur terre, transformant la création tout entière en un nouveau ciel et une nouvelle terre, puis vivant ici, avec nous, sur terre. Autrement dit, la dernière grande vision de la Bible ne nous dépeint pas montant au ciel, mais parle de Dieu descendant ici, sur terre. Intéressant. Je sais que plusieurs pensent que là où nous irons, il n'y aura rien de ce que nous connaissons sur la terre. J'ai envie de dire, c'est faux. Et ce n'est pas entièrement juste. C'est vrai qu'il y aura des choses qui vont nous surprendre. Mais vous savez pourquoi plusieurs ont de telles pensées en rejetant tout ce qui pourrait être de cette terre sur la nouvelle terre? Je vous donne deux raisons principales. Première raison, le christianisme traditionnel, depuis Platon et plus tard sous diverses influences gnostiques, a souvent opposé les domaines physiques et spirituels. Cette pensée conduit naturellement à considérer que rien de ce qui fait partie de la terre ou de ce qui s'y trouve ne survivra dans l'éternité à venir après la fin du monde. Dire que le physique est mauvais et le spirituel est bon, c'est très platonique, mais pas du tout biblique. Et nous, chrétiens, voilà, nous pouvons être aussi dans ce courant de pensée facilement. Deuxième raison. Le point de vue courant consiste à affirmer que la terre entière sera anéantie par un redoutable embrasement. Le monde actuel disparaîtra. Mais il y a des théologiens sérieux qui donnent un autre sens. Nous pouvons penser que c'est un feu purificateur qui détruira tout ce qui est mauvais sur cette même terre qui deviendra nouvelle. Alors, les amis, nous irons sur une nouvelle terre. Très certainement cette même terre, mais purifiée. Après ces deux raisons, j'aimerais vous donner plusieurs termes que la Bible nous donne concernant la nouvelle terre. En voici quelques-uns. La Bible parle du royaume de Dieu. Un royaume dans lequel la seigneurie absolue de Dieu et de son gouvernement parfait sera universellement reconnue. La Bible parle aussi de la maison de Dieu où il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 14, verset 2 ? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. La Bible parle d'une cité, une patrie céleste. Hébreux 13, 14, ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. La Bible parle aussi de la nouvelle Jérusalem, qui est appelée la ville sainte, parce que tous ceux qui l'habitent sont saints. Apocalypse 21, verset 2. « Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » La nouvelle Jérusalem sera immense. Immense. Sa longueur sera de 2200 km, ainsi que sa largeur et sa hauteur. Elle formera un cube parfait. Ses 12 fondations, au nom des 12 apôtres, seront ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Elle aura 12 portes qui seront chacune une perle au nom des 12 tribus d'Israël. Ses rues seront en or pur. Ça nous laisse rêver, hein? Alors arrêtons-nous un instant sur cette ville sainte. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'histoire de l'humanité en Genèse commence par un magnifique jardin et finit avec une ville splendide dans Apocalypse ? Alors désolé hein, pour ceux qui n'aiment pas les villes. Non, soyez tranquilles. Vous savez, le jardin d'Éden renfermait de l'or, des pierres précieuses. C'est un lieu arrosé par 4 rivières. Il y avait aussi l'arbre de vie. Et dans la ville décrite dans Apocalypse, on retrouve aussi des pierres précieuses. Il y a le fleuve de vie et de nouveau l'arbre de la vie. La ville donnée dans Apocalypse comprend donc les principaux éléments du jardin de la Genèse. Intéressant. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le premier jardin a été créé par Dieu, alors que la première ville a été créée par l'homme. Nous voyons donc que Dieu crée un jardin pour restaurer ce qu'il avait fait à l'origine, et en même temps, Dieu crée une ville qui représente l'apogée de la réussite humaine collective, mais ici purifiée. Alors pensez un peu à cela. Dieu ne rejette pas comme ça du revers de la main. J'ai prévu le jardin d'Éden et le nouveau monde que je prépare, je vire tout ce qui est terrestre et je fais quelque chose de totalement nouveau, comme on pense nuages, etc. Non, il y a des choses bien, bien concrètes, physiques. Et donc, ne rejetons pas cela de bloc, sachant que Dieu a vraiment ce désir-là. Donc, on voit vraiment ce Dieu qui, d'un côté, restaure ce qui était fait à l'origine et en même temps purifie les œuvres humaines. Et donc, il y a quelque chose de fort ici. Le concept de ville, on sait très bien, inclut les notions de relation, d'activité, de responsabilité, d'unité, de socialisation, de communion et de coopération. Tout ça, ça ne va pas être enlevé, mais purifié tout simplement. Sur la nouvelle terre, nous vivrons dans la cité et le jardin de Dieu. On pourrait dire dans une cité-jardin magnifique. Ce sera un lieu d'une beauté à nous couper le souffle. Donc, que ferons-nous sur la nouvelle terre, dans cette ville? Premièrement, nous vivrons, avant de dire ce que nous allons faire, nous vivrons dans des corps glorieux. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21 nous dit ceci. « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Waouh ! Les amis, nous ne serons pas des fantômes, des esprits, des âmes désincarnées, comme certains le pensent. Nous ne deviendrons pas non plus des anges avec des ailes, etc. Hein ? Notre corps sera un corps réel, physique et complètement humain. Le même corps dans lequel nous aurons passé notre vie sur la terre, ce sera un corps rendu parfait et glorifié. Le corps ne se décomposera plus, ne mourra plus, ne sera plus soumis aux limitations temporelles et physiques, donc plus de maladies, plus de vieillesse, pour ceux qui en ont marre là. Hein ? Voilà, donc réjouissons-nous de cela. C'est un monde physique et ce sera donc un corps réel semblable au corps de ressuscité du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui nous montre déjà ce que ce sera. Même si sur le chemin d'Emmaüs, les disciples avaient un peu de mal à voir qui c'était. Hein. Mais Jésus était reconnaissable. Deuxièmement, nous vivrons dans une joie parfaite. Nous vivrons pleinement le psaume 16, verset 11. « Plénitude de joie dans ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Par la bouche du prophète Ésaïe, Dieu dit dans Ésaïe 65, et je rappelle que dans Ésaïe 65, le prophète parle de la part de Dieu, donc il dit, fait toute une prophétie sur la nouvelle terre. Il dit ceci, « Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. » Waouh ! Mais plusieurs questions difficiles peuvent se poser. Ok Manu, tu dis ça, et la Bible parle de cela, mais et les souffrances du passé ne vont-elles pas entacher notre joie sur cette nouvelle terre ? Voici la réponse dans Ésaïe 65, verset 16. Les maux du passé seront tous oubliés. Yes ! Les souffrances et les injustices seront radicalement guéries et ne seront plus qu'un souvenir sur lequel on ne s'attardera plus. Autre question que quelqu'un pourrait poser, comment vivre dans une joie parfaite quand nous savons que d'autres personnes sont en enfer, dans un feu qui ne s'éteint jamais, même des personnes que nous avons connues et aimées? Là, il est très, très, très difficile de répondre à cette question. Et les réponses ne sont pas tout le temps satisfaisantes. Mais il n'y a pas dans la Bible de textes qui disent que nous éprouverons de la tristesse au paradis en pensant à ceux qui sont en enfer. Ça, c'est clair. Mais quelques textes vont dans le sens que tout chagrin sera absent. Voici quelques réponses à notre question. La première réponse que nous pouvons donner, c'est que si Dieu promet une vie parfaite sur la nouvelle terre, c'est qu'elle sera parfaite. Et là, il nous faut faire confiance à Dieu dans cette promesse. La deuxième réponse se trouve dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, où il est écrit « Il, Dieu bien sûr, essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Donc, rien ne pourra nous rendre malheureux car Dieu a prévu une consolation parfaite pour nous. La troisième réponse est que notre joie sera suprême en Jésus-Christ. Il satisfera tous les désirs de nos cœurs. Si certains de ceux qui nous étaient chers seront en enfer, ce sera parce qu'ils auront refusé de manière persistante celui qui est l'objet de notre amour, de tout notre amour. Et enfin, nos affections seront transformées, transfigurées, et nous verrons toutes choses du point de vue de Dieu, de sa justice et de son amour. Dieu fera en sorte que nous voyons en lui les choses d'une manière apaisée. Il aime plus que nous ce que le refus de sa grâce condamne à la seconde mort. L'issue du jugement se révélera bonne à tous, aux bienheureux comme aux réprouvés. Cela signifie que chacun acceptera sa situation, car elle lui apparaîtra comme parfaitement juste. Voilà quelques éléments de réponse. Et dans ces réponses que j'ai pu donner, ça peut répondre aussi à la question, mais pour ceux qui auront honte de leur passé en venant dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu essuiera vos larmes. Troisièmement, nous vivrons dans une sainteté parfaite. Yes. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Éphésiens 1, 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Apocalypse 21, verset 27. Rien d'impur ne pourra y pénétrer, en parlant de la nouvelle terre. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous ne pécherons plus sur la nouvelle terre. Ah. Nous ne désobéirons plus à Dieu, à la volonté bonne et parfaite pour nous de Dieu. Nos pensées, nos motivations profondes et nos actes seront totalement purs, sans aucune trace de péché et de mal. Nous serons totalement libres. Nous pourrons enfin pratiquer ce qui est juste, saint et parfait aux yeux de Dieu. Ça fait rêver tout ça, hein ? Quatrièmement, nous vivrons des relations parfaites. Les amis, quand Dieu sera au centre de tout, pour la première fois, sans exception, sans réserve, sans échec, nous saurons par expérience ce que signifie obéir à ce que Jésus appelle le plus grand commandement. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces. De plus, nous expérimenterons également ce que signifie aimer nos prochains, comme nous-mêmes. Quelque chose que nous essayons de pratiquer, mais de manière tellement imparfaite. Sur la nouvelle terre, ce sera parfait. Plus de conflits, plus de haine, plus de préjugés, plus de favoritisme, plus d'égoïsme, plus d'orgueil. Nous vivrons dans un amour total les uns envers les autres. En parlant des relations, nous sommes plusieurs à nous poser une question. Est-ce que nous nous reconnaîtrons les uns les autres dans le paradis ? Et là, on a encore ces conceptions assez habituelles qui sont « Dieu va tout raser » et d'un coup, on va faire comme dans Men in Black, hein, il y a un petit flash et « Je ne sais pas ce que... C'était qui, toi ?» Attention, les amis. Voici ce que plusieurs donnent comme argument. À la mort de son fils, David savait qu'il le rejoindrait au ciel. Il ne doutait pas un instant qu'il le reconnaîtrait. On voit cela dans 2 Samuel 12. Paul a consolé l'église de Thessalonique car certains étaient dans la tristesse concernant ceux qui sont décédés. Il leur rappelle la résurrection et que tous les croyants seront ensemble avec Jésus-Christ. Cela est une bonne nouvelle et une forte consolation. Pourquoi ? Parce qu'ils se reconnaîtront. Sinon, ce n'est pas une consolation. Sache qu'on les on sera tous là-bas, mais en fait, on ne se reconnaîtra pas, quoi. On trouve ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Dans l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, les uns et les autres se reconnaissent dans l'au-delà. Le riche reconnaît Abraham et Lazare. Donc, c'est une histoire quand même qui est une... On dit parabole, on se pose des questions si on peut pleinement dire, faire toute une des vérités là sur ce texte, mais on se dit peut-être que. Donc, Luc 16. Quand Jésus a été transfiguré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les disciples l'ont reconnu lui-même. Mais sachez une chose, ils ont reconnu sur la montagne. Ils ont reconnu qui ? Moïse et Élie. Comment ils ont fait ? Comment ils ont fait ? Ils les ont jamais vus. Hé, hey, Élie, comment tu vas ? Bien ? Hé, hey, Élie ? Puis il était déjà en train de préparer, il veut déjà préparer une tente. Hein, déjà, c'est, allez, on va se poser ici, tranquille. Impressionnant. Mais nous allons même reconnaître des gens que nous ne connaissons pas, en fait. Bizarre, mais on va savoir qui ils sont. Donc, ce que nous sommes, notre nom, notre individu, enfin, le fait que nous sommes ce que nous sommes, cela va être préservé sur la nouvelle terre. Voilà pourquoi on parle, même Dieu osait dire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il y a des choses là qui sont présentes et qui montrent que nous n'allons pas d'un coup, pouf, ne rien connaître, etc. Et ne pas nous reconnaître. Cinquièmement, nous vivrons en harmonie avec tous les peuples de la terre. Ça rejoint le quatrième point. Mais c'est important de le souligner. Hein, en tant qu'église multiculturelle. Apocalypse 7, versets 9 à 10. « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau !» Là, pour que tout le monde dise cela, c'est qu'il y a vraiment une harmonie forte. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 24, il est dit que les nations marcheront à sa lumière. Donc, ils marchent ensemble à la lumière de Dieu. Cette lumière qui est la gloire de Dieu et Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la venue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes. Chaque mois, il porte son fruit. Ses feuilles servent à la guérison, à guérir les nations. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre ce que ça signifie. Mais dans mon interprétation personnelle ici, pour moi, quand ça parle de guérison des nations, c'est vraiment tout ce qui était qui a rendu difficile les relations entre peuples. Et donc pour moi, on est en train de voir ici quelque chose de fort. Les pays qui, pendant toute leur histoire, ont vécu des haines, des préjugés, des injustices et des querelles, trouveront la guérison, bien sûr, auprès de Dieu. Mais là, il y a l'arbre de vie. Et dans cette nouvelle création qui va guérir cela. C'est fini, plus de guerre, les amis. Par la puissance de l'Évangile, Dieu va restaurer, guérir à tous les niveaux pour une paix, une unité et un amour parfait entre toutes les nations. Yes! Imaginez tous les peuples de la terre qui ont dit oui à l'amour de Dieu vivront dans une parfaite harmonie. Waouh! Sixièmement, nous jouirons des richesses des nations. Apocalypse chapitre 21, versets 24 à 26, il est dit ceci, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Alors là aussi, c'est difficile d'interpréter ce qui est dit ici. Mais voilà, je vous donne une idée. Ça ne veut pas dire que ce sera ça comme je le dirai tout à l'heure, mais je l'ai un peu dit avant aussi. On va forcément être surpris par ce que nous verrons. Mais on essaye là, face au texte, de comprendre ce qui se passe. Il me semble que la gloire des nations, ce sont toutes les richesses du monde qui seront sanctifiées. Tout ce qui a embelli et honoré la vie des nations dans l'histoire continuera d'enrichir la nouvelle création. Toute la culture des humains, les langues, la littérature, l'art, la musique, les sciences, les affaires, le sport, les réalisations technologiques, tout cela à notre disposition, peut-être, se poser la question, débarrasser en tout cas pour toujours du poison du mal et du péché, sous le regard aimant et approbateur de Dieu et le glorifiant. Nous pourrons avec lui jouir peut-être de tout cela, nous aurons toute l'éternité en tout cas pour le comprendre. Septièmement, nous travaillerons avec joie. Vraiment, désolé les amis, vous pensiez qu'aller au paradis, c'est partir en vacances, à la plage, sous les cocotiers, pour vous reposer pour l'éternité. Eh non! Il y a du boulot sur la nouvelle terre. Mais en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle, car on ne s'ennuiera pas. On ne s'ennuiera pas. Ésaïe nous parle quand il nous parle de la nouvelle terre dans Ésaïe 65, il est dit « Mes élus jouiront du fruit de leur travail ». Je suppose qu'il pense à cela, à la joie du travail sur la nouvelle terre. Et le travail, donc, c'est clair, ne sera plus pénible, frustrant, fatigant, injuste. Notre travail sera agréable, satisfaisant et productif. Autre chose, dans le paradis terrestre, avant que le péché ne vienne dans le monde, Dieu a donné à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder son héritage. Ces deux mots résument admirablement la tâche de la société actuelle, utiliser nos ressources naturelles tout en les préservant. Il n'est pas impensable que l'homme nouveau ait ces mêmes occupations dans le royaume de Dieu. Huitièmement, nous régnerons avec Christ. Ce point est assez surprenant. Et il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 5, il est dit ceci, « Ils régneront éternellement. » Dieu, tu peux en dire plus parce que moi, je ne comprends pas. Mes amis, nous allons régner avec Jésus-Christ. C'est une pensée difficile à comprendre. On sait très bien que c'est Dieu qui va régner. Mais il y a comme un partage de son règne. C'est une pensée, oui, difficile à comprendre, et en prenant plusieurs textes, alors je vais les dire un peu mélangés comme ça, nous apprenons qu'il y aura un temps où les croyants jugeront les hommes et les anges. Alors je ne pense pas que quand ça parle de cela, c'est dans le sens qu'on va juger les hommes et les anges sur la nouvelle terre, on parle d'avant. Ils auront aussi la responsabilité de diriger des villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y aura une période de 1000 ans, de règne. Certains, de par leur fidélité sur terre, auront de plus grandes responsabilités que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, très surprenant. Puis, il y aura un règne éternel des enfants de Dieu, le texte que nous venons de lire. Est-ce parce que vu que nous serons dans le royaume de Dieu, c'est ainsi que Dieu veut dire les choses, pour nous donner des positions d'honneur? Vu qu'il y aura le trône de Dieu dans la ville sainte et que nous le servirons, j'ai l'impression que sur la nouvelle terre, la mention du règne éternel des enfants de Dieu n'est rien d'autre que jouir ensemble de notre proximité avec le roi des rois, Dieu, au-dessus de tout. Le temps me manque pour aller plus loin sur ce sujet, il faudrait tout un message pour creuser le sujet. Neuvièmement, nous servirons et adorerons Dieu. J'ai un peu déjà dit certaines choses par rapport au service, mais le service est très mêlé avec adoration, n'est-ce pas? Parce que Apocalypse 22, verset 3 nous dit « Ses serviteurs lui rendront un culte ». Comme je l'ai dit au début du message, certains pensent qu'on s'ennuiera au ciel. C'est peut-être à cause de certains textes comme celui d'Apocalypse 4, verset 8 qui dit que « Les quatre êtres vivants ne cessent de dire jour et nuit « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Alors on a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de chanter dans le ciel comme ça, hein, et que nous allons faire ça. Et certains se disent, bon, ben voilà, on va aller, peut-être, voilà, comme on disait tout à l'heure, sur un nuage, et on va être là, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit, les amis. Disons plutôt que ce n'était pas sans arrêt. Il y a et il y aura régulièrement de la louange, car les anges et les chrétiens sont et seront sans cesse reconnaissants pour les nombreux bienfaits de Dieu et ils seront sans cesse touchés par sa grâce, par son amour et sa proximité. Et si on pourrait dire presque du sans cesse dans ces mots qui vont être donnés, puisqu'il y aura une foule de personnes. Hein, et donc on peut imaginer entendre régulièrement dans la journée des louanges qui sont données à notre Dieu. Mais on ne parle pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui est sans arrêt, de quelqu'un qui est là et qui est juste à... Quelqu'un disait, j'ai peur d'aller dans le ciel ou au paradis parce que ce sera un long culte, éternel. Moi, je suis content quand le culte finit, parce qu'après, on va manger, on fait d'autres choses, quoi. Hein, faut quand même qu'il y ait d'autres choses. Mais... Rassurez-vous, ce n'est pas ça. Hein. Mais l'adoration, nous le savons, ce n'est pas le culte du dimanche. L'adoration, c'est toute notre vie. Déjà maintenant, quand nous servons Dieu, le louons et l'adorons, nous goûtons à une certaine paix, n'est-ce pas? Nous goûtons à une certaine joie, à une certaine satisfaction. Mais sur la nouvelle terre, servir Dieu, le louer et l'adorer, remplira nos cœurs d'une joie parfaite et d'une pleine satisfaction. Ça, c'est quelque chose à retenir. Nous arrivons maintenant au dernier point. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Dixièmement, nous jouirons de la présence de Dieu pour toujours. Quelle pensée extraordinaire. Nous n'avons jamais vu Dieu. Nous avons Jésus-Christ qui nous dépeint, qui nous montre qui est Dieu. La relation avec lui, le Saint-Esprit en nous. Mais il y a encore tellement de choses à découvrir. Et là, nous allons rencontrer Jésus-Christ. Nous allons être dans la gloire de Dieu. Regardez quelques textes. Apocalypse 21, verset 3. « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Chapitre 21, verset 22 à 23. « Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Chapitre 22, verset 1. « Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Apocalypse 22, verset 3, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. » Waouh ! Pas mal de textes là, hein, qui nous dit tellement de choses. Il y aura sur la nouvelle terre la tente de Dieu, le trône de Dieu, Dieu comme temple, la gloire de Dieu et Jésus qui éclaire la ville sainte. La ville est en fait le lieu très saint, les amis, où Dieu habite et vit avec les humains. Quelque chose d'extraordinaire. C'est énorme cette vision. Imaginez, nous verrons Dieu. Nous le contemplerons dans toute sa sainteté, dans une gloire inimaginable, dans ses perfections. Nous vivrons dans une forte proximité avec lui pour l'éternité. Dieu sera le centre de tout. Nous serons totalement centrés sur lui pour l'éternité. Amen. Je vais maintenant conclure. Nous avons vu ensemble plusieurs descriptions des nouveaux cieux et de la nouvelle terre où Dieu et tous les croyants habiteront. Mais sachez une chose, nous serons très certainement surpris de ce que nous vivrons vraiment auprès de Dieu. Et donc, même les choses que j'ai essayé de comprendre, j'ai pensé que ça allait dans telle direction, on essaye de comprendre les textes bibliques, mais restons humbles, les amis. Restons humbles devant ces vérités et laissons-nous surprendre par Dieu. Il y a tant de bonnes choses qui nous attendent. Deux choses importantes pour finir. Premièrement, si vous n'avez pas l'assurance d'appartenir à Dieu, d'avoir reçu la vie éternelle, Dieu vous invite ce matin à venir à lui demander pardon pour vos péchés, à placer votre foi en Jésus-Christ. N'attendez pas demain. Vous ne savez pas ce qui peut arriver juste après le culte. Deuxièmement, pour nous croyants, la Bible le dit plusieurs fois, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Pour cela, attendons le retour de Jésus-Christ. Vivons pour lui plaire, aimons-le et servons-le de tout notre cœur et parlons de lui à ceux qui ne le connaissent pas encore. Que toute notre vie soit comme une louange donnée à Dieu. Je vais finir avec un texte ici. Dans un célèbre cantique du 18e siècle, mon sauveur avant tout, Fanny Crosby a écrit ceci. À la marée montante et à la fin de mon dur labeur, quand je verrai ce matin éclatant et glorieux se lever, quand sur l'autre rive j'arriverai, alors mon sauveur je connaîtrai et son sourire m'accueillera en premier. À travers les portes de la ville, d'une robe blanche, immaculée, vêtue. Il me mènera là où aucune larme ne tombe plus. Et dans le chant joyeux, je me fondrai avec joie. Mais je languis de... Je languis de rencontrer mon Sauveur en premier. Vous voyez bien que pour Manu, c'est aussi une phrase qui me touche. Ces paroles ont une portée tout à fait particulière, car Fanny Crosby était aveugle. Elle savait que la première personne qu'elle verrait serait Jésus-Christ. Prions. Dieu notre Père, merci pour la nouvelle terre que tu prépares pour nous. Nous attendons avec impatience la venue de Jésus-Christ, les noces de l'agneau où nous vivrons pour toujours dans une union parfaite avec toi pour l'éternité. Remplis nos cœurs de ta joie pour que non seulement nous ayons honte du péché et que nous le détestions, mais aussi que nous soyons toujours plus attirés par Jésus-Christ, sa grâce, son amour et sa sainteté. Notre vision est si limitée quand nous réfléchissons à ce qui nous attend sur la nouvelle terre. Mais malgré cela, donne-nous une plus grande passion pour le nouveau ciel et la nouvelle terre où ta justice habitera, où ta gloire resplendira et où nous serons parfaits en amour et en sainteté. Nous te disons encore aujourd'hui, comme l'a écrit l'apôtre Jean à la fin de l'Apocalypse, « Viens, Seigneur Jésus ». Amen.